VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédier. Les autorités maliennes suspendent toutes les rotations du contingent militaire et policier de la MINUSMA. Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Yair Lapid s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Après une réunion à Istanbul hier, l'ONU dit espérer un accord pour débloquer les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédier à Abidjan. Nous allons faire le point avec Aïcha Diarra qui est sur place. Aïcha, est-ce que l'on a eu déjà donc des nouvelles, quelques filtrations de cette rencontre? Est-ce qu'il en sort quelque chose ou pas?
Oui, Nathalie, il en sort quelque chose. Après plus d'une heure d'échange, les trois leaders politiques de la Côte d'Ivoire se sont présentés enfin aux journalistes et ils ont tenu un discours de 5 minutes tout au plus. Et c'est Laurent Gbagbo qui a tenu ce discours qui a été préalablement écrit sur papier. Et ils ont tout simplement dit que cette rencontre était un levain de la décrispation sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Ensuite, Laurent Gbagbo et Henri Conan-Bédier ont été reconnaissants au président Alassane Ouattara pour l'accueil qu'il leur a réservé. Et Alassane Ouattara qui a souligné que d'aucuns penseront que cette rencontre est extraordinaire, mais pour eux, c'est une rencontre ordinaire qui se fera régulièrement en fonction de la disponibilité de ses prédécesseurs dans la politique.
Aïcha, rien de plus précis par rapport à cette rencontre, c'est à peu près tout?
Ce n'est pas à peu près tout, c'est tout ce qui a été dit. Rien de précis. Rien sur les élections présidentielles à venir en 2025, s'ils seront candidats ou pas. Rien de précis. Ils ont tout simplement dit qu'ils se reverront régulièrement et que cette rencontre était quelque chose d'ordinaire pour eux. Et là, ce sont les propos d'Alassane Ouattara.
Merci beaucoup, Aïcha Diarra, notre correspondante sur place à Abidjan. On vous dit à très bientôt, on vous reprend plus tard. Dans un rapport publié ce jeudi, des organisations de défense des droits humains dénoncent le système judiciaire ivoirien qui a, selon elles, réduit à néant les espoirs de justice des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. La justice a été utilisée comme outil de contrôle et de pouvoir sous influence de l'exécutif, dénonce le rapport publié par le mouvement ivoirien des droits humains et deux autres organisations. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, les ONG ont notamment cité la condamnation à perpétuité contre l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Les autorités maliennes ont suspendu à partir de ce jeudi toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la mission des Nations Unies au Mali, y compris celles déjà programmées ou annoncées. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Cette décision s'applique jusqu'à la tenue d'une réunion par la partie malienne dont la date n'a pas été communiquée pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation de ces contingents, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Bamako assure la MINUSMA de travailler de manière diligente en vue de réunir les conditions propices à la levée de cette suspension. Les autorités maliennes justifient leur décision en invoquant le contexte de sécurité nationale. Cette mesure intervient 4 jours après l'interpellation de 49 militaires ivoiriens qualifiés de mercenaires par Bamako. Selon Abidjan, ces soldats étaient déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, une procédure de l'ONU permettant aux missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques.
Au Togo, un mouvement qui regroupe 7 partis politiques de l'opposition et 6 organisations de la société civile a annoncé l'annulation d'un meeting prévu samedi à Lomé pour éviter des violences policières. Après une nouvelle interdiction du gouvernement, les autorités avaient déjà interdit ce rassemblement de la dynamique Monseigneur Pozzro, initialement prévu le 25 juin pour dénoncer la vie chère et l'impunité. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé illégale la suspension pendant 7 mois de Twitter au Nigeria l'an dernier. Cette décision fait suite à une plainte d'organisation de défense des droits humains au Nigeria contre l'État, déposée en juillet 2021, un mois après le début de l'interdiction. Après la suspension, Twitter avait été autorisé en janvier après des négociations entre Abuja et les responsables du réseau social. En Ouganda, des décès causés par la faim ont été rapportés dans la région de Karamoja, dans le nord-est du pays, indique le bureau du Premier ministre. Selon une députée locale, il pourrait se compter par centaines dans cette région frontalière du Kenya et du Soudan du Sud. En proie à la sécheresse, après avoir été frappé par des inondations, glissements de terrain et une invasion de cricket, qui subit par ailleurs des raids de voleurs de bétail.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et Israël ont fait front commun ce jeudi malgré leurs divergences sur les moyens pour s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, Washington promettant d'utiliser toute sa puissance pour y parvenir. Le point avec Jacques Aristide.
À l'occasion de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain Joe Biden a paraphé avec le premier ministre israélien Yair Lapid la déclaration de Jérusalem sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël, consacré en partie au dossier nucléaire. Selon ce texte, les États-Unis s'engagent à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour s'en assurer. Le président Biden a affirmé privilégier la voie diplomatique face à Téhéran, tout en précisant que les États-Unis n'allaient pas attendre indéfiniment l'Iran pour parvenir à un accord visant à relancer le pacte de 2015, alors que les pourparlers piétinent. Israël s'oppose à ce pacte et souhaite le maintien des sanctions contre l'Iran. Considéré comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, Israël accuse l'Iran de chercher à se doter de la bombe atomique, ce que ce pays dément catégoriquement. Après Israël, le président Biden se rend demain après-midi en Arabie Saoudite, rivale régionale de l'Iran.
En Ukraine, au moins 20 personnes ont été tuées ce jeudi par des frappes russes sur une ville du centre du pays. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Ces frappes ont eu lieu à Vinnytsia, à des centaines de kilomètres des lignes de front. Selon les autorités ukrainiennes, le port stratégique de Mykolaïv, proche de la mer Noire, a été touché par une frappe de missile. Les principaux combats restent concentrés dans l'est de l'Ukraine et le Donbass. Avant une réunion des grands argentiers du G20 à Bali en Indonésie, Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, a déclaré que la guerre en Ukraine est le plus grand défi pour l'économie mondiale. Le président français Emmanuel Macron a averti que le conflit en Ukraine allait durer et qu'il faudrait se passer du gaz russe, car selon lui, Moscou se sert du gaz comme arme de guerre. Après une réunion hier à Istanbul, l'ONU dit espérer un accord pour le déblocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens face à la hausse mondiale des prix des denrées alimentaires.
Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a démissionné ce jeudi depuis Singapour, où il venait d'arriver. À Colombo, les manifestants ont mis fin à l'occupation de bâtiments publics, tout en promettant de continuer à mettre le pouvoir sous pression. La lettre de démission envoyée par email au président du Parlement a été transmise au procureur général du pays. Le chef de l'État sri-lankais a fui samedi sa résidence, prise d'assaut par les manifestants, alors que le pays traverse une grave crise économique. Il a réussi à sortir du pays hier en direction des Maldives, d'où il a pris un avion pour Singapour ce jeudi. Et en Italie, le président Sergio Mattarella a refusé la démission du Premier ministre Mario Draghi, a annoncé la présidence, précisant que le chef de l'État l'a invité à se présenter au Parlement pour une évaluation de la situation. Monsieur Draghi a annoncé en Conseil des ministres qu'il remettrait sa démission ce soir à la suite de la non-participation du mouvement 5 étoiles, un parti de sa coalition, à un vote de confiance au Sénat. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibourg.
En Afrique de l'Ouest, la campagne cotonnière 2022-2023 s'annonce sous de bons auspices. Du Burkina Faso au Mali, en passant par le Bénin et la Côte d'Ivoire, l'heure est à la revalorisation des prix aux producteurs. En Côte d'Ivoire, le kilo de coton sera acheté auprès des producteurs au tarif de 310 francs CFA, a annoncé le gouvernement hier au terme du Conseil des ministres. Pénurie de carburant, le gouvernement camerounais a dû débourser 317 milliards de francs CFA au premier semestre 2022 pour éviter les hausses de prix à la pompe. Toute augmentation alourdirait l'inflation qui se situe déjà à 4,6% selon le FMI, c'est-à-dire à plus de 3% la norme communément admise dans les pays de la CEMAC. Lors de sa dernière mission dans le pays, l'institution de Bretton Woods avait appelé les autorités à cesser leur soutien des prix à la pompe, tant cette politique est insoutenable à moyen terme. Ici aux États-Unis, une récession reste évitable, notamment au vu de la solidité du marché de l'emploi, a estimé aujourd'hui Christopher Waller, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, la banque centrale américaine. Il s'est dit ouvert à l'idée d'une forte hausse des taux directeurs d'un point de pourcentage lors de la prochaine réunion fin juillet.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite et fin ce jeudi des quarts de finale de la CAN féminine au Maroc.
À suivre le choc au Cameroun-Nigeria qui se présente comme une finale avant l'heure. La Tunisie défie l'Afrique du Sud. Hier, le Sénégal a été éliminé par la Zambie. Victorieuse au tir au but, 4 tirs réussis contre 2. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En demi-finale, les Zambiennes affronteront le pays hôte, le Maroc, qui a sorti le Botswana grâce à sa victoire 2-1 en quart de finale. A noter que les qualifiés pour les demi-finales représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ferdinand Omanyala prendra part aux mondiaux d'athlétisme.
Oui, le sprinter kényan, détenteur du record d'Afrique du 100 mètres, a finalement obtenu ce jeudi son visa pour les États-Unis où s'ouvre demain vendredi ses mondiaux d'athlétisme. Il a prévu de s'envoler ce soir et espère rallier à temps Eugene en Oregon pour être au départ de sa compétition qui débute dès demain soir par les séries. Jusqu'à hier, Ferdinand Omanyala n'avait pas son visa et a même envisagé ce jeudi matin de renoncer à la compétition avant de se raviser. Le troisième meilleur performeur de l'année sur 100 mètres avec ses 9 secondes 85 centièmes est une chance de médaille pour l'Afrique. Retour sur le parcours de celui qui cherche à révolutionner l'athlétisme kényan, connu pour ses performances en demi-fond et en fond, avec Nanit Talani.
En 6 ans d'une fulgurante ascension, il s'est fait un nom au pays où les coureurs de demi-fond et en fond sont rois. Ferdinand Omanyala et son entraîneur Duncan Ayemba veulent changer de regard porté sur l'athlétisme kényan.
Dans un pays où l'on pratique la course de fond, même la fédération n'a pas cru à un moment donné qu'il pouvait y avoir un sprinteur au Kenya. Il faut surmonter toutes ces difficultés pour devenir un sprinteur. Je crois que j'ai ouvert la voie à tant de personnes qui sont venues derrière moi. C'est l'une des choses que je voulais faire, laisser un héritage.
L'athlète de 26 ans porte 2 bracelets au poignet droit. L'un avec l'inscription 9 secondes 85 centièmes, son meilleur temps de la saison réalisée début mai. Sur l'autre, on peut lire 9 secondes 77 centièmes, le record d'Afrique qu'il a établi 8 mois plus tôt, 9e temps de l'histoire. Ces chiffres résument la dernière année du sprinteur kényan qui s'est révélé au plus haut niveau international en attendant de briller sur les 100 mètres lors des Mondiaux 2022, puis aux Jeux du Commonwealth.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition, maintenant un dossier du jour. Au Tchad, le chef des militaires au pouvoir, Mahamat Debi, s'en est pris violemment à Bob Menendez, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères des États-Unis, pour avoir introduit une résolution au Sénat le 11 juillet en faveur de la démocratie au Tchad. Le sénateur américain a demandé au général Debi et aux autorités de transition tchadienne de s'engager à organiser des élections cette année, conformément au calendrier approuvé par l'Union africaine, en plus de leur promesse de ne pas se présenter comme candidat. Le point avec André Kodmadjingar, N'Djamena.
Il faut que les gens sachent qu'on est en 2022, le temps où des petits fonctionnaires travaillant dans des ambassades qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'État africains est révolu.
Le général 5 étoiles Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition. Le sénateur américain, lui, s'est dit fier de faire une proposition de résolution critique affirmant le soutien des États-Unis à un dialogue national crédible et inclusif axé sur le retour de l'ordre constitutionnel et au rétablissement des leaderships civils. Mahamat Idriss Deby n'a pas mâché ses mots.
Le Tchad est un pays souverain. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et poussé par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire de notre pays. Et de ce quoi, un sénateur qui traîne des casseroles.
Pour les acteurs politiques, le général est allé trop vite en besoin. Et puisque le sénateur américain ne fait que rappeler aux membres du Conseil militaire de transition le respect de leur engagement.
Le rappel de la parole donnée ne mérite pas en retour ni des déconsidérations, ni des verbiages qui font monter les enchères de manière inutile.
L'opposant Dr Succès Masra, pour lui, la souveraineté qu'évoque le président du Conseil militaire de transition est à géométrie variable.
Lorsque le Qatar a demandé au Tchad de différer l'organisation du dialogue sur la date duquel le PCMT s'était pourtant fermement engagé, je n'ai pas entendu qu'on ait rappelé au Qatar que ce n'est pas au Qatar de dicter au Tchad la manière dont le Tchad doit organiser son dialogue. Les partenaires qui viennent travailler dans notre pays, nous n'avons pas besoin de les traiter ni de petits fonctionnaires, ni des gens qui ignorent la réalité du Tchad. Je conseillerais à mon jeune frère de s'entourer davantage de diplomates qui pourraient lui conseiller peut-être un meilleur choix des mots, tout en sachant que oui, le destin du Tchad est entre les mains des Tchadiens.
Pour le constitutionnaliste Ahmad Mahamad Hassan, la réaction du président du Conseil militaire de transition est un aveu pour la conservation du pouvoir militaire.
La réponse est très passionnée parce que le simple rappel ne peut pas amener à cette colère qui transparaît dans les propos du président Mahamat Idriss Deby Itno. Il aurait dû simplement saluer cette coopération pour la démocratie et la liberté et tout simplement de laisser le porte-parole du Conseil militaire de transition de reconfirmer leur engagement. Le refus de confirmer engagement et d'être irrité par le rappel de note de leur volonté de conservation du pouvoir et c'est dommage.
Peu avant cette polémique, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad avait déjà demandé au Conseil militaire de transition à tenir leur engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Une déclaration qualifiée par Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, l'ancien parti au pouvoir d'opportune et qui, selon lui, s'apparente à une ingérence de nature à perturber la dynamique consensuelle et apaisée de la transition en cours. André Kordoma-Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, les boulangers pensent devoir utiliser la farine de céréales et de tuberculose locale dans la fabrication du pain. Le conflit russo-ukrainien a entraîné la cherté et la rareté du blé, ce qui incite les professionnels du secteur à explorer de nouvelles voies de production. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Le pain est très prisé au Bénin, même si ces derniers temps, il faut débourser plus pour en acheter. Les boulangers avancent comme argument la rareté, donc la hausse du prix du blé. Face aux récriminations des consommateurs, certains pâtissiers et boulangers proposent la production à base de céréales locales. Gassien Djagouni est un acteur politique, mais également un boulanger de renommée qui a fait l'expérience de l'introduction des céréales locales dans la production du pain.
La farine de manioc incorporée jusqu'à conférence de 5%, aucune incidence, tout se passe bien. Quand on dépasse le cap de 5%, ça demande plus de technicité et plus de savoir-faire. Au niveau de la farine de riz, j'ai été agréablement surpris de voir que jusqu'à hauteur de 50% d'introduction, ça se passait très bien. Sur la problématique de la farine de maïs, jusqu'à concurrence d'introduction de 10% de la farine de maïs dans la production du pain, vous ne pouvez pas le constater. Tout se passait très bien. Donc, il faut même qu'on vous informe.
Malgré ces résultats, certains boulangers ont du mal à se faire à l'idée, car pour eux, il faut un préalable avant d'imposer un tel changement dans l'habitude alimentaire des Béninois. Alain Quenome est boulanger.
Il nous faut la disponibilité de la matière première dans le temps pour que lorsque nous allons commencer progressivement à donner des habitudes aux consommateurs, qu'on puisse maintenir l'offre. Il faut que nous puissions ensemble voir quels sont les actes qu'il faut poser pour encourager ceux qui font bien, sensibiliser et former ceux qui ne font pas bien à se mettre sur le bon chemin. C'est tout. Nous sommes une des rares corporations, nous avons autant de ministères qui agissent là-dedans. Nous sommes quand même une économie à ne pas négliger. Les chiffres relatifs à l'importation de la farine de blé, ce n'est pas des montants qui se chiffrent en millions, mais en milliards.
Francis Rédiblet, boulanger de profession, n'est pas contre l'utilisation des céréales locales, mais pose beaucoup de questions préalables qui sont juste là. Sans réponse.
Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons, c'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? Un, deux, la farine locale, faut la rendre disponible.
Nous disons aussi qu'au-delà, il faut que nous puissions poser certaines questions. Il s'agit de dire qui sont les acteurs, comment ces acteurs sont classifiés dans la configuration du marché aujourd'hui.
Pour la nutritionniste Merveille Adoussiba, les Béninois n'ont pas à se préoccuper des apports nutritionnels du pain à base de céréales locales.
C'est une bonne initiative, les farines locales. D'abord, ce sont nos produits locaux. Quand nous prenons le pain fait à base du blé, vous savez que son glucose, c'est du gluten. Mais quand vous prenez le pain fait à base du manioc, son glucose, c'est de l'amidon. Mais les deux sont tous deux des polysaccharides qui nous apportent de l'énergie, sont des féculents. Si vous respectez la portion qu'il faut là, ce n'est pas encore inconvénient pour la santé.
En dehors de son apport nutritionnel, le pain à base de céréales locales peut être un véritable levier sur le plan économique. Les associations des consommateurs appellent le gouvernement à se pencher sur la question de façon sérieuse. Même si le consensus a du mal à se faire, la cherté du blé finira par forcer la main aux boulangers qui hésitent encore et aux consommateurs qui agitent l'excuse d'apport nutritionnel pour bouder les rares boulangeries qui proposent du pain à base de farine de manioc, de riz ou de patates douces. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu fait face à un manque de sang. Le Centre provincial de transfusion sanguine alerte sur l'augmentation des besoins sanguins dans les hôpitaux. Un reportage de notre correspondant sur place, Zanem Netizaidi.
Le besoin en sang s'est fait sentir dans presque toutes les grandes structures sanitaires des Goma. Certains patients meurent par manque des poches de sang. Jean-Paul Sankara, un jeune étudiant, témoigne car il a vu un de ses proches perdre un membre de sa famille par manque de sang dans un hôpital dans l'ouest des Goma.
C'est déplorable de voir comment actuellement dans la ville de Goma, il y a carence des poches de sang dans des structures de santé. J'ai vu un ami proche perdre un membre de sa famille à cause du sang. Nous sommes partis à l'hôpital. La structure de santé n'a pas pu sauver la personne vu qu'il n'y avait pas de poches de sang pour la transfusion. Elle a fait recours à la banque du sang. Il n'y a pas eu une réponse favorable de leur part.
Même l'hôpital militaire de Goma connaît une pénurie de sang. Le médecin affirme que le besoin de sang a dépassé le nombre de poches disponibles, ce qui provoque des décès. Lieutenant Ngwai Mafuta Josué, responsable des services des laboratoires à l'hôpital militaire de Goma.
Nous avons constaté que les besoins de sang s'augmente. On consomme beaucoup l'essence ces derniers temps. Quand on a fait des bilans par rapport à l'année passée et les années antérieures, maintenant là, vraiment, nous constatons que le besoin au sang s'augmente. L'année passée, on avait consommé environ 70 quelques poches de sang. Et l'année ici, on a déjà dépassé.
Selon Madame Liliane Bouiza, coordonnatrice du Centre provincial des transfusions sanguines du Nord Kivu, les besoins à sang sont énormes, ce qui oblige les centres à faire travailler ses agents pour collecter une quantité plus importante qu'auparavant.
On a constaté que le besoin en sang a fortement augmenté et qu'on n'arrive pas à couvrir correctement le besoin. Ce qui fait qu'on enregistre parfois de décès par manque du sang en quantité suffisante. Je dirais même on a presque doublé. L'année passée, nous, par mois, on collectait environ 1500 poches de sang, mais à ce jour, on est en train de faire un effort pour collecter 2900. Je dirais que les moyens ne suivent pas, mais nous sommes obligés de faire cette collecte-là de cette façon au prix des sacrifices des personnels.
Pour pallier à ces fléaux, les initiatives de sensibilisation, des récoltes de sang, ainsi que la sensibilisation de la fraternité entre les donneurs de sang ont été multipliées dans la région. Zanem Netizaï Diagoma pour VOA Afrique.
Au cours de sa tournée au Moyen-Orient, le président américain discute principalement de la stabilité régionale, des prix du pétrole et de la relance d'un accord sur le programme nucléaire iranien. Des défenseurs des droits humains appellent M. Biden à aborder aussi les circonstances entourant la mort des journalistes Jamal Khashoggi et Shireen Abu Akleh. Le point avec Cindy Sain de La Voix de l'Amérique, le récit de Jacques Aristide.
Le président Joe Biden a atterri à Tel Aviv hier, première étape d'un périple de 4 jours. Après des rencontres avec des dirigeants israéliens et palestiniens, le chef de l'exécutif américain va mettre le cap sur l'Arabie Saoudite. La sécurité israélienne et régionale est un objectif majeur. Des analystes croient que le voyage du président Biden au Moyen-Orient pourrait conduire à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Mais la présence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lors d'une réunion à laquelle doit participer le locataire de la Maison Blanche a provoqué de vives critiques. Pour certaines ONG, il s'agit d'une gifle pour les droits de l'homme. Agnès Calamar est secrétaire générale d'Amnesty International.
What President Biden is doing is suggesting.
Ce faisant, le président Biden est en train de suggérer que les droits de l'homme ne valent pas grand-chose et peuvent être négociés pour une gamme d'objectifs et de résultats. Cela brise à bien des égards la vision que le président Biden a offerte au monde après l'agression de l'Ukraine par la Russie.
To the world after Russia's aggression of Ukraine.
La tournée du président américain en Arabie Saoudite est vue comme un recul par rapport à la promesse de Joe Biden de mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine et de faire du prince héritier saoudien un paria sur la scène internationale après l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. John Hirsch est le directeur des programmes de Democracy for the Arab World Now, une organisation à but non lucratif fondée par Khashoggi avant sa mort.
Je pense que c'est terriblement décevant pour l'Arabie Saoudite, les défenseurs des droits humains, les dirigeants de la société civile. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement judicieux en matière de décision de stratégie et de politique. Je ne pense pas que cela profite aux États-Unis.
Les États-Unis et l'ONU ont trouvé indépendamment des preuves montrant l'implication directe du prince saoudien dans l'assassinat de Khashoggi, des accusations que le prince nie en bloc. Une autre polémique concerne la mort de la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie le 11 mai dernier. Sa famille a demandé une rencontre avec le président Biden à Jérusalem. Le département d'État a déclaré que les tirs israéliens étaient probablement responsable de sa mort, mais n'a pas pu dire si les tirs étaient intentionnels. Christian Ulriksen de l'université Rice.
L'administration de Trump et celle de Biden en particulier ont continué de faire pression sur les Saoudiens pour une enquête internationale. Il semble qu'il y a beaucoup moins de pression dans le cas de Shireen Abu Akleh.
Avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, la Maison-Blanche a indiqué que la famille de la journaliste avait été invitée aux États-Unis pour s'engager directement avec le président. Les experts qualifient de difficile la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président. Quant au groupe de défense des droits humains, ils passent à la loupe chaque poignée de main et chaque mot du président.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnio. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.voaacrique.com.